Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4 heures.
Here it comes again, taste of jagged glass and rusty can. There are just black holes where the stars would be watching. Just black holes where the stars should have been. Pools of dirt caress the urine colored sun. Swarms of angels come to kill your sons. And there's nothing but black holes where the stars should have been.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. C'est l'émission Palud de numéro 1093 consacrée de 11h à midi à notre 864e arrache-cœur, présentation de quelques nouveautés littéraires. Au programme et sous réserve d'imprévus négatifs, je parlerai aujourd'hui d'un ouvrage de Petra Klabouchova intitulé « Près du mur nord » traduit du tchèque par Barbara Fort pour les éditions Agulo. J'enchaînerai chez le même éditeur, Agulo, mais dans son format court, par L'arbre de Judas de Michalis Makropoulos, un texte traduit du grec par Clara Nizzoli. Et enfin, j'enchaînerai avec deux ouvrages de James Baldwin. Le premier, Personne ne sait mon nom, est paru aux éditions Folio. Il est traduit de l'anglais américain par Jean Outré. Et le dernier, de James Baldwin, toujours, mais aux éditions du Livre de Poche, Meurtre à Atlanta, un texte traduit de l'anglais américain par James Bryant et revu par Florence Noblet. Mais avant toute chose, et après le générique d'introduction, nous écouterons enfin Patti Smith Group avec Revenge.
Again, taste of jagged glass and rusty can. We'll be right back.
Il est à bout de force. L'air est de plus en plus glacial. À chaque fois que le vent souffle, l'étreinte gelée de ces bois noirs l'enserre, et il tremble comme les brins d'herbe sèche tout autour. Heureusement qu'elle est là, avec sa main chaude. Il l'entend réciter un poème tout bas, qui parle du Tout-Puissant qui tient sa main protectrice au-dessus de leur tête et ne les abandonnera jamais. Il ne connaît pas ce poème, mais il verse du calme dans sa petite âme apeurée. Comme cette tisane chaude que quelqu'un, dans son souvenir, verse dans une petite tasse en porcelaine avec trois cœurs. Une vieille femme pleine de rides. Josifec, mon petit Josifec. Les arbres se font moins denses. Cette clairière devant eux est pleine de dangers, de trahisons. Comme pour la biche obligée de quitter son abri forestier, d'abandonner la cuirasse protectrice des arbres pour sortir dans un lieu où tout le monde peut la voir, où les loups sont rois. Il presse le pas, de plus en plus. Il n'arrive plus à suivre, il flotte derrière elle, accroché à sa main comme le ruban d'une guirlande en papier crépon. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas du tout. Leurs pas ne sont plus seuls. Il entend de tous côtés le craquement de petites branches et le froissement des feuilles tombées. Elle aussi l'entend. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils ne marchent plus, ils courent. Il ne sent plus le sol sous ses pieds. Elle le tient dans ses bras, un petit paquet aux cheveux clairs, et elle s'enfuit avec lui, avec ses dernières forces, de son dernier souffle. Halte ! Oh les mains ! Mais c'est impossible, non ? Maman ne peut pas s'arrêter, elle doit arriver de l'autre côté, là où Dieu l'attend. Elle ne peut pas lever les mains, puisqu'elle doit le porter, pour les siècles des siècles. Garde-frontière, stop, haut les mains. Les hurlements de ces hommes en uniforme vert qui les entourent de partout se répercutent sur les sommets des collines et reviennent en écho 100 fois multipliés. Mais elle ne s'arrête pas, même lorsque la première balle lui traverse le corps. Dieu n'est plus qu'à quelques pas, il les attend au bout de ce pré. L'aboiement de la deuxième décharge de mitraillette s'élève dans la nuit. Pendant un instant, rien ne se passe, rien du tout. Et puis, soudain, elle tombe, tout tombe autour de lui. Il sent dans la bouche le goût de la fange. Les pas des soldats en lourdes bottes militaires se rapprochent. Elle respire encore, difficilement, par à-coups. Josifec, achève-la. Le plus vieux des deux, en manteau gris, hurle à l'oreille du jeune aux yeux exorbités qui tient la mitraillette en tremblant. « Tonton. Allez, bon Dieu, ils ne t'ont rien appris à la caserne. Les morts ne parlent pas. »« Non, » crie-t-il par toutes les parties de son petit corps et il serre dans ses bras le paquet de chair ensanglantée qui le tenait il y a encore un instant. Il doit la protéger, maintenant c'est à lui de le faire. Ce dernier coup à bout portant lui bouche les oreilles. Une douleur aiguë lui traverse l'épaule gauche. La balle est passé tout près, au-dessus du cœur. Mais les épaules enfantines n'arrêtent pas les balles. Il sent toujours la main maternelle dans la sienne, pour les siècles des siècles. Mais maintenant, elle ne le tient plus. Elle ne bouge pas, comme la main d'une poupée morte. Quand il les sépare, quand il arrache sa main de celle de sa maman, le monde autour de lui s'effondre. Il explose en 1000 particules sanglantes, inutiles. Un désir insatiable de vengeance lui embrase de nouveau le cœur. Leur faire mal, à tous, vraiment tous. Un sentiment que jamais aucun enfant ne devrait connaître. « Maman !» appelle-t-il. Maintenant, il se souvient. Maintenant, il pourrait le lui répéter jusqu'à la fin du monde. Mais ses yeux ouverts ne le voient plus. Il regarde dans la nuit de cette forêt maudite, quelques pas au loin, là où Dieu les attendait. Elle est déjà auprès de lui, et l'enfant est resté de nouveau tout seul. « Maman !» Le silence. Un silence de mort. Plus de Josifec, plus jamais. Et ce chiard, qu'est-ce que j'en sais ? Je ne peux pas. Pas les enfants, s'il vous plaît, pas les enfants. Tonton renifle avec mépris et repousse le canon de mitraillette dans les mains tremblantes de l'autre gardien de la frontière merveilleuse. « Comment tu t'appelles ? Bon sang, comment tu t'appelles ? Dis-moi !» Silence. Il s'appelle Josifec. Mais il est désormais le seul au monde à le savoir, et il ne va pas le leur dire. Il se souvient très bien des commandements. « Ne dis ton vrai nom à personne. »« Oui, maman, ne pardonne pas. Le pardon n'appartient qu'à Dieu. »« Oui, maman. » Voilà un extrait de l'ouvrage de Petra Klabouchova intitulé « Près du mur nord », un texte qui est traduit du tchèque par Barbara Faure pour les éditions Agulo et qui est paru dans leur collection Noir, un texte qui me permet de découvrir cette autrice qui est née en 1980, qui a travaillé pendant plusieurs années dans la presse et la télévision tchèque avant de se tourner vers l'industrie musicale dans laquelle elle officie aujourd'hui, ce qui lui permet de vivre entre l'Italie, les États-Unis et la République tchèque. Elle est l'autrice de plusieurs romans policiers, elle écrit également pour la jeunesse et elle a reçu plusieurs prix qui font dire aujourd'hui d'elle qu'elle est une des grandes voix du polar tchèque. Avec Près du mur nord, on découvre une histoire réelle, puisqu'entre 1948 et 1965, plusieurs centaines de corps d'opposants au régime communiste, constitués aussi bien d'adultes que d'enfants et de nouveau-nés, ont été enterrés dans des fosses communes qui ont été pendant très longtemps ignorées de tous. Elles se trouvent, ces fosses communes, dans un cimetière au nord de Prague, d'où le titre du nom, au nord de Prague, donc dans ce cimetière. Et ce registre qui aurait permis de retrouver les corps, ou du moins de leur donner une identité, a mystérieusement disparu. On ne sait donc pas exactement qui se trouve en dessous, cela nécessiterait des recherches. On sait maintenant à peu près localiser évidemment ces fosses communes, mais de là à véritablement faire un travail mémoriel qui permettrait de revenir sur tous les crimes qui ont été commis, c'est peut-être trop demandé à une population qui a voulu et déterminée visiblement à passer à autre chose. Avec ce livre, Petra Klabouchova revient donc sur cette histoire honteuse de la période communiste et sur la violence qui a été perpétrée contre ces individus qui ont voulu ou ont cherché à s'opposer au régime. Alors elle le fait à la fois effectivement en s'étant longuement et profondément documentée, et plus on avance d'ailleurs vers la fin du texte et plus cette présence de l'histoire avec un grand H est prégnante, et sur les toutes fins du texte l'auteur elle-même intervient pour expliquer dans quelles circonstances non seulement elle a découvert l'existence de ces fosses communes, mais comment également elle a pu échanger avec les dernières rares personnes qui ont un souvenir de cette histoire. Et comment elle s'est penchée aussi, évidemment, sur toute la documentation existante. Ce côté très historique, très réfléchi du livre, est malgré tout orchestré dans un texte fictionnel, à travers notamment deux figures, qui sont les deux figures dominantes de Près du mur nord. Il y a ce petit garçon, dont vous avez entendu les circonstances dans lesquelles sa mère a été tuée par les gardes frontières. Une mère qui était opposante politique, qui a donné naissance à ce petit garçon qu'on lui a évidemment immédiatement subtilisé, puisque c'est aussi une histoire qui tourne autour du rapt d'enfants, finalement, de la manière dont ce régime a fait en sorte de briser les consciences des opposants politiques, et notamment des femmes, en leur retirant les enfants auxquels elles donnaient naissance dans les prisons du régime. Ce petit garçon, qui s'appelle Josifec, a été placé dans une institution. Il souffrira pendant toute sa vie d'un trou au cœur, et c'est d'ailleurs le nom qui lui est donné, l'homme au cœur troué, tout au long du texte. Cet enfant, bien des années plus tard, alors devenu un homme déjà âgé, vieillissant, souffrant dans son corps, est déterminé à venger sa mère, mais aussi toutes les victimes de ce régime. Cet homme au cœur troué, il va donc opérer à partir d'un ensemble de dossiers qui, dans le texte, sont intitulés les dossiers noirs. Il en a sept en sa possession, ou plutôt il devrait y en avoir 7, mais au départ, nous n'en découvrons que 6 d'entre eux, le volume 4 étant absent. On découvrira plus tard pour quelles raisons, dans quelles circonstances il a été retiré de l'ensemble des dossiers et à qui surtout il a été remis. Cet homme au cœur troué, il va orchestrer une vengeance implacable, déterminée, une vengeance qui ne s'embarrasse absolument d'aucun état d'âme. Et de l'autre, il y a une autre figure, un peu plus tardive celle-ci, une femme qui elle est également désignée par une appellation générique, elle s'appelle la soignante des mourants, elle travaille dans une maison de retraite, et cette femme, dans la maison de retraite où elle officie, est considérée comme un ange de douceur et de tendresse, mais une figure parmi les pensionnaires va prendre beaucoup d'importance. Cette femme, sur laquelle elle semble veiller, est victime d'apparitions surnaturelles, en tout cas de manifestations assez inquiétantes qui font que le texte oscille pendant un moment entre le roman policier, la recherche d'enquête autour de ce qui s'est passé dans ces fosses communes et dans ses prisons, et de l'autre, les événements surnaturels de la maison de retraite. Et on découvrira, évidemment, en progressant dans l'histoire, à quel point tout cela est entremêlé. Je vous laisse découvrir ce roman qui est véritablement palpitant, qui nous entraîne dans cette histoire qui est narrée de main de maître par Petra Klabouchova, et qui, moi, m'a permis de découvrir cet aspect-là des choses, qui montre que les régimes se suivent et se ressemblent, puisque ce régime communiste a suivi évidemment les exactions nazies qui les avaient précédées, mais dans les mêmes lieux, avec les mêmes modes opératoires et avec la même cruauté mentale. Près du mur nord est un texte traduit du tchèque par Barbara Faure, ceci pour les éditions Agulo dans leur collection Noir.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Weeping Tree, interprété par les Dandy Warhols. Le 23 novembre, Ilias revint à son village d'Elvinaki dans la commune de Pogoni, sur les hauteurs de l'Épire, à 17 km de Cacavia, à la frontière gréco-albanaise. À 53 ans, il était revenu vivre avec sa mère. Il avait avec lui deux valises en tout et pour tout. Dans l'une, il y avait des vêtements. Dans l'autre, des livres. Tout de suite, à l'entrée du village, il y avait le quartier des Sarakatsanayon. Devant chez lui, un takikousias coupait des bûches à la hache. En passant, Ilias le vit par la vitre de l'autocar fendre d'un coup de hache une bûche en deux. C'était comme ça, d'un coup de hache, que sa vie s'était fendue, quand il avait trouvé Eleni avec Kostas, son ancien associé. Au début, quand les accessoires auto furent devenus un luxe superflu et que sa boutique avait fait faillite et fermé sous les dettes, Ilias était resté à la maison en compagnie de la télé qu'il n'éteignait pas de la journée et d'une lutte inégale qu'il n'avait pas cessé un instant de livrer au fond de lui. Un sentiment de vide, d'un gouffre insondable, rivalisait avec sa décision de ne pas abandonner. Le vide se creusait de plus en plus au fur et à mesure que les jours, tous identiques, se succédaient les uns aux autres et que sa force tarissait. Le pilier de la maison était désormais Eleni. Il vivait avec le salaire qu'elle touchait comme institutrice et en puisant dans les économies destinées aux cours privés supplémentaires de Maria en deuxième année de lycée et aux frais d'Angeliki qui, à 21 ans, était encore étudiante en fac de graphisme. Autrefois, c'était lui qui ramenait le plus d'argent, lequel se changeait en voyage, en maison de campagne, en pajero argenté. Le salaire d'Eleni ne faisait que compléter. Le pajero, il l'avait vendu au rabais. Il n'avait plus que l'escorte d'Eleni. L'inactivité, la sensation d'être piégé et inutile le rendaient agressif. Les engueulades avec Eleni étaient de plus en plus fréquentes et violentes. L'animal pris dans le piège à loup se coupe la patte pour se libérer. Ses disputes avec Eleni étaient comme les coups de dent de l'animal captif sur sa propre patte. Il se démenait pour se libérer de sa vie, qui s'était changée en piège. Eleni, malgré elle, l'avait aidé, ou peut-être à dessein. Il l'avait surprise avec Kostas, et grâce à cette trahison, Ilias avait donné le dernier coup de dent. Il s'était coupé de sa vie et s'était libéré. La victoire du vide était désormais totale. Il avait embrassé Maria et Angeliki, dont les yeux brillaient de larmes stagnantes, et il était parti après avoir rempli deux valises. À la gare de Kifissos, il les avait chargés dans l'autocar pour Ioannina, et de là-bas dans l'autocar pour le village. Il allait vivre avec sa mère. Son père, il l'avait perdu 2 ans plus tôt. Elle ne parlait pas à sa mère, Madame Guélot, pour dire quoi ? Une fois, peut-être, pour le consoler, elle avait affublé Eleni de tous les noms, tout ce que sa bienséance villageoise lui autorisait de plus rude, et Ilias lui était tombé dessus. Il ne voulait pas de sa consolation, seulement sa cuisine et son linge lavé. La mine, triste et coite, de sa mère lui personnifiait le naufrage de sa propre vie. Il la haïssait, car elle était son unique refuge. Il la haïssait pour ce qu'elle pensait et ne disait pas, car elle avait peur de lui, car elle avait peur de sa colère, et qu'elle ne voulait pas lui faire de la peine. Il la haïssait de le regarder avec tant de soucis. Et quand une fois, alors qu'Ilias était en train de manger, courbé et silencieux, elle était arrivée derrière lui pour poser sa main d'abord sur son épaule, puis sur sa joue, ses larmes avaient mouillé sa vieille peau rugueuse. Parce qu'il ne haïssait pas sa mère, Madame Guélot, il l'adorait. C'était lui-même qu'il haïssait, quand il voyait son reflet dans son regard plein de compassion. Même Eleni, il ne la haïssait pas en fin de compte. Sous la colère qui souvent étincelait dans ses yeux, enfouie au fond de son silence, il livrait une bataille inégale contre lui-même. Voilà les toutes premières pages de ce roman de Michalis Makropoulos intitulé « L'arbre de Judas », un texte traduit du grec par Clara Nizzoli et qui est paru aux éditions Agulot dans leur collection « Cours ».
Alors c'est un texte qui est originellement paru en 2014, mais de cet auteur né en 1965 à Athènes, Michalis Makropoulos. J'avais déjà présenté un autre texte que je vous recommande également chaudement, qui s'intitule « Eau noire » et qui était paru également chez ce même éditeur, et si je me souviens bien, dans ce même format. Enfin, c'était en 2023 et je l'avais présenté sur cette antenne. Ici, nous retrouvons donc Michalis Makropoulos, qui a une formation initiale en biologie et qui... en parallèle de son activité d'écrivain, exerce aujourd'hui en tant que traducteur littéraire depuis l'anglais. On lui doit une vingtaine de livres, dont 6 en littérature jeunesse. Et il vit aujourd'hui sur l'île de Lefkada, mais il effectue de longs séjours dans le village justement de Delvinaki, en Épire, où il situe l'action de nombreuses de ses fictions. C'était le cas pour Eau noire, c'est le cas également pour L'arbre de Judas, qui va nous permettre donc de suivre le retour particulièrement douloureux dans son village de cet homme, Ilias, qui a quitté son épouse après l'avoir surprise avec Kostas. Il abandonne aussi ses deux filles, qu'il aime passionnément, pour se retrouver dans la maison de sa mère, sans emploi, sans argent, sans objectif de vie, sans aucune capacité à se projeter dans un futur. Un homme qui revient donc en partie brisé et qui va renouer certains de ses contact ancien, mais qui est quand même un grand adepte du silence et de la solitude. Cet Ilias va se retrouver donc plongé dans un quotidien qui est fait essentiellement de promenades dans les environs du village. Il a un ami très proche, un ami d'enfance qui est un commissaire, un commandant de police avec lequel il renoue assez rapidement et qui se révèle un soutien important pour Ilias, notamment en lui prêtant sa voiture afin de lui permettre de ne pas rester coincé dans son village et surtout dans la maison de sa mère. Un événement va venir perturber ce qui est déjà une narration qu'on le devine assez compliquée pour cet homme, c'est la découverte d'un cadavre, le cadavre d'une jeune femme qui a été brutalement et sauvagement mutilée, dont on arrive pas véritablement à déterminer l'origine immédiatement, et qui va se révéler être une prostituée, visiblement venue de l'Albanie toute proche. On est à la frontière entre les deux pays, et de manière assez surprenante, presque inexplicable, elle va prendre, cette jeune femme, pour Ilias, une forme particulière de fantôme. Elle va apparaître de manière récurrente autour de lui et lui faire comprendre petit à petit qu'il doit s'impliquer dans la recherche de ces meurtriers, de ceux qui l'ont sauvagement mutilé. Et sans qu'on l'explique, encore une fois, et sans que cet aspect un peu surnaturel soit véritablement complètement expliqué ou analysé par Michalis Makropoulos, on va comprendre que pour Ilias, cette quête devient essentielle, notamment parce que il le pressent, il le devine, il est en mesure, dans la majeure partie du temps, il est assez indifférent à ce qui se passe autour de lui, mais il est en mesure, pour cet événement-là tout particulièrement, d'être impliqué et surtout d'avoir accès à un certain nombre d'informations dont il pressent qu'elles lui ont été données par le hasard lors d'un retour nocturne à un moment où le climat était particulièrement difficile et où personne n'était à l'extérieur. Il a croisé deux hommes, un père et son fils, dont il pressent, un homme et un homme plus jeune, dont il pressent qu'ils ont partie liée avec ce crime. Alors l'homme plus âgé qu'il a croisé, c'est une figure locale, une sorte de petit voyou qui est toujours plongé dans les combines les plus sordides et les plus louches, dont Ilias se tient à distance, même si celui-ci est toujours aimable lorsqu'il le croise. L'autre, c'est un jeune homme qui vit avec son père, donc, et qui semble avoir été entraîné dans une aventure qui le dépasse. Alors, on découvrira en poursuivant l'histoire, les enjeux autour de ces différents protagonistes, le commandant de police qui semble étrangement incité Ilias à ne pas s'investir trop avant dans cette histoire. On trouve assez rapidement un potentiel suspect qu'on décide être le criminel. Le brigand en question, le voyou, semble hors de toute atteinte. Et de l'autre côté, Ilias continue à creuser ce sillon qui le hante et qui l'obsède. L'histoire de Michalis Makropoulos, L'arbre de Judas, c'est non seulement une enquête policière, mais c'est essentiellement et surtout, et c'est à mes yeux l'essentiel du texte, l'observation d'un homme brisé, d'un homme qui le comprend bien, voit sa vie arriver à une sorte de terminus, qui n'arrive plus à renouer des liens avec ses propres filles, qu'il appelle au téléphone mais qui ne viennent pas le visiter, tout comme il est incapable de retourner les voir, et qui, face à ce mur qui se dresse devant lui, décide de jouer une sorte de va-tout qui pourrait être aussi bien un sursaut émotionnel lui permettant de sortir par le haut de cet effondrement intérieur qu'une forme de suicide, comme s'il était conscient, en avançant avec détermination vers la résolution de l'énigme, qu'il était également en train de mettre sa vie en jeu. Je vous laisse vous aussi parcourir avec lui ces quelques kilomètres dans les campagnes et les alentours de ce village dans lequel il est revenu d'Elvinaki, l'arbre de Judas de Michalis Makropoulos, un texte traduit du grec par Clara Nizzoli et donc disponible aux éditions Agulo dans leur collection Cours. Toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Julie Cruz interpréter Everybody Knows. C'est un jour particulier, un jour terrible, le jour vers lequel tout son séjour en Europe a tendu. C'est le jour où il se rend compte que dans ce monde si terriblement tourmenté, aucun pays n'échappe à l'inquiétude. Que s'il s'est préparé à quelque chose en Europe, c'est à l'Amérique. Bref, la liberté que l'écrivain américain trouve en Europe le ramène, après avoir effectué un tour complet, à lui-même, et il s'aperçoit que la responsabilité de son évolution se trouve là où elle a toujours été, dans ses propres mains. Même le vagabond le plus incorrigible est né obligatoirement quelque part. Il peut se séparer du groupe qu'il a engendré, il peut y être obligé, mais rien n'effacera jamais ses origines, dont il emporte les marques partout. Je pense qu'il est important de le savoir, et même d'y trouver matière à se réjouir, comme le font les êtres les plus forts, quelle que soit leur situation. C'est de cette acceptation au sens propre que dépend la vie de l'écrivain. On a souvent reproché aux écrivains américains de ne pas décrire la société et de ne pas s'intéresser à elle. Ils se contentent de décrire les individus qui s'y opposent ou qui s'en isolent. Il est évident que l'écrivain américain décrit sa propre situation. Mais que dépeint Anna Karénine, sinon le destin tragique de l'individu isolé, en désaccord avec son époque et avec son pays ? La véritable différence, c'est que Tolstoï écrivait une société vieille et dense, dans laquelle tout semblait, aux yeux qu'il a constitués, mais non à Tolstoï, fixé à jamais. Et si le livre est un chef-d'œuvre, c'est parce que Tolstoï a pu discerner et nous faire voir les lois cachées qui gouvernaient cette société et rendaient le destin d'Anna inévitable. Les Américains n'ont pas de société immuable à décrire. Dans la seule société qu'ils connaissent, rien n'est immuable, et l'individu doit lutter pour affirmer son identité. Cette confusion est enrichissante, et elle procure à l'écrivain américain des possibilités incomparables. Les tensions dont la vie américaine est à l'origine et les possibilités qu'elle offre sont énormes. Cela ne peut faire de doute. Mais si la littérature contemporaine traite ces sujets, c'est surtout par contrainte. En somme, le livre a plus de chances d'être un symptôme de notre tension que le résultat de son examen systématique. Dieu le sait, l'heure est venue pour nous de nous livrer à un examen autocritique. Mais nous ne pourrons le faire que si nous sommes prêts à nous libérer du mythe de l'Amérique et à essayer de découvrir ce qui se passe réellement dans notre pays. Chaque société est gouvernée en fait par des lois cachées, par des postulats tacites mais profondément ancrés dans l'esprit des gens. Et la nôtre n'échappe pas à la règle commune. C'est le rôle de l'écrivain américain de découvrir la nature de ces lois et de ces postulats.
Radio Campus.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Sans pour autant réussir à s'en libérer, cette tâche ne sera guère aisée. Il n'est pas surprenant que l'écrivain américain continue, en attendant, de chercher un refuge en Europe. Il a besoin d'aliments pour son voyage. Il lui faut les meilleurs modèles possibles. L'Europe possède ce que nous n'avons pas encore. Un sens du mystérieux et des limites inexorables de la vie. Bref, un sens de la tragédie. Quant à nous, nous avons ce qui lui manque le plus, une conscience neuve des possibilités offertes par l'existence. Dans cette entreprise destinée à combiner la vision du vieux monde à celle du nouveau, c'est l'écrivain et non l'homme d'État qui joue le plus grand rôle. Bien que nous n'en soyons pas encore entièrement persuadés, la vie intérieure est une vie réelle, et les rêves intangibles de l'homme ont un effet tangible sur le monde. Voilà les tout derniers mots de cet article de James Baldwin intitulé « Prise de conscience de la condition d'Américain » qui ouvre le recueil « Personne ne sait mon nom ». Enfin, un recueil donc de James Baldwin qui couvre une grande partie des années 50 et qui a été publié originellement en 1961 avant d'être traduit en 1963 donc de l'anglais américain en français par Jean Autré, c'était pour les éditions Gallimard dans leur collection du monde entier. Et ce recueil d'essais et de réflexions est enfin disponible en poche depuis peu dans la collection Folio, toujours donc dans cette même traduction de Jean Autré. Alors cette réédition, elle s'explique en partie, je pense, par le fait que nous fêtions l'année dernière, en 2024, le centenaire de la naissance de James Baldwin. Il est né en 1924 dans le quartier de Harlem à New York. Il s'est installé en 1948 à Paris, où il va retrouver d'autres Américains expatrié, il va continuer d'y écrire avant de décider de retourner aux États-Unis, puis de revenir à nouveau à Paris et de s'installer enfin finalement à Saint-Paul-de-Vence, où il est mort le 1er décembre 1940. 87. Il laisse derrière lui donc des essais, évidemment des romans, et c'est un des grands écrivains américains que ce James Baldwin, que nous découvrons ici donc à travers ce regard aigu qu'il porte sur la société américaine. Personne ne sait mon nom est un des titres d'un des articles et recueils, un des essais qui se trouve dans ce recueil. Une grande partie d'entre eux porte évidemment sur la perception qu'avait James Baldwin de son propre pays et des enjeux liés bien évidemment à la question raciale. C'est une des questions prégnantes dans toute son œuvre. Elle est ici à nouveau reprise à travers notamment des textes qui évoquent la configuration de Harlem, avec une lettre de Harlem qui va s'interroger sur la répartition des blancs et des noirs dans New York. Mais on a aussi une réflexion autour de l'intégration scolaire des noirs dans les années 50. C'est l'un des enjeux fondamentaux qui met la société sous une tension permanente, une crispation identitaire des blancs qui refusent évidemment que les noirs puissent être scolarisés dans les écoles blanches. Et il y a aussi une lettre du Sud qui va emmener James Baldwin à Atlanta, où il va observer aussi les différences intérieures au pays entre le statut des Noirs dans la partie nord du pays, qui est considérée comme la partie progressiste, et de l'autre, la partie plus ancestrale, plus ancienne, puisqu'elle est directement liée à la période de l'esclavage, le Sud, dont fait évidemment partie Atlanta. On a donc ici toute une réflexion autour de cette question raciale, mais elle s'enracine constamment avec James Baldwin, elle s'enracine dans le substrat même de l'écriture et du statut de l'écrivain. Vous l'avez entendu, l'homme politique, n'est pas lui qui fera véritablement changer les choses ou qui éclairera la société sur ce miroir qu'elle refuse de regarder en face, ce miroir d'elle-même, que James Baldwin aimerait bien que les Blancs et les Noirs observent avec le plus de franchise possible, tout en sachant pertinemment que chez James Baldwin, la notion de la couleur, elle ne peut jamais être complètement détachée d'une réflexion plus générale autour du pouvoir, d'un pouvoir qu'il qualifie de blanc sans nécessairement l'associer d'ailleurs à la couleur, et de cette obsession chez les Noirs de pouvoir un jour y participer. Il y a donc toute une réflexion que l'on doit mener et qui, à l'époque où James Baldwin la pose, est évidemment extrêmement importante, mais qui n'a toujours pas été réglée bien des années après sa mort. Mais le texte s'accompagne aussi, ce recueil est très dense, il y a 13 textes qui le constituent, il s'accompagne aussi de réflexions vraiment autour de la littérature et plus particulièrement des écrivains, puisque James Baldwin rend compte dans le deuxième texte d'un congrès qui s'est tenu en septembre 1956 à Paris, dans l'université de la Sorbonne, qui s'intitulait le Congrès des écrivains et des artistes noirs, qui est une observation extrêmement pointue, aiguisée et virulente de James Baldwin sur les différentes prises de parole qu'il a pu entendre et toutes les réflexions que cela lui inspire. Et puis on aura aussi des réflexions plus précises, plus ciblées autour de William Faulkner par exemple, et de ce statut d'un écrivain blanc parlant d'une société dans laquelle l'esclavage est encore extrêmement prégnant. Enfin, on aura une observation aussi assez aiguisée et intéressante d'André Gide, d'Hemingway et de Richard Wright. Richard Wright, James Baldwin l'a côtoyé de très près. Il a cru déceler en lui quelqu'un qui pourrait éventuellement le soutenir, le faire progresser. Il y avait une différence d'âge entre les deux hommes. Ils ont cru à un moment être amis et puis des dissensions vont apparaître. Le texte est assez long et revient sur cette amitié compliquée, complexe, difficile entre les deux hommes, à la fois faite de révérence et d'admiration et en même temps d'une critique de l'homme et de ses positionnements intellectuels. Et puis on finit sur un texte aussi très très intéressant qui confronte deux grands écrivains américains, d'un côté James Baldwin, le noir, et de l'autre Norman Mailer, le blanc, dans un texte qui s'intitule « Le jeune noir regarde le jeune blanc ». Tout ça est à la fois extrêmement enrichissant, très incisif, très très pertinent, plein aussi parfois de, non pas de mauvaise foi, mais je trouve de critiques un peu injustes
geste de la part de James Baldwin, mais c'est aussi ce qui fait la richesse, je trouve, de son regard et de sa lecture. Je vous invite donc à vous plonger dans ce recueil qui est enfin disponible en poche. Il n'existait jusqu'à présent qu'en grande collection chez Gallimard, dans la collection donc du monde entier. Maintenant disponible en folio, Personne ne sait mon nom, recueil de 13 textes de James Baldwin, traduit de l'anglais américain par Jean Autré.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
Toujours l'écho des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM et en DAB+, c'est sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Sly and the Family Stone avec le titre Family Affair. Walter Lowe, du magazine Playboy, m'a écrit, chez moi en France, pour me proposer d'aller à Atlanta rédiger un article sur les disparitions et les meurtres d'enfants qui s'y sont produits. Jusque-là, j'avais suivi cette histoire avec les informations limitées qu'offrait la presse française. Il n'est pas facile de suivre le déroulement d'une affaire qui se passe dans son propre pays, selon le point de vue d'un autre pays. À distance, on s'imagine aisément que l'on a saisi la logique des événements, mais tant qu'elle n'est pas confrontée aux faits, cette logique n'est-elle pas une création imaginaire, bâtie à partir de souvenirs ? Après tout, les souvenirs que j'ai gardés de ma vie en Amérique, ou ceux que j'imagine avoir, portent le sceau de la terreur. Mais ici, la mémoire est encore moins sûre, car on ne se souvient pas de la terreur. On l'efface, on l'évacue par tous les moyens, organiquement. On s'invente, on se crée une personnalité ou un personnage, et sous les strates du refoulement, semblables à des couches géologiques, est assoupie, du moins veut-on le croire, la terreur essentielle, celle que la mémoire veut nier. Cependant, elle ne dort jamais complètement, cette terreur qui n'est pas la peur de la mort, laquelle est inconcevable, mais celle de la destruction. Des fois, je m'imagine, me disait un enfant d'Atlanta, que je rentre d'un entraînement de foot ou de baseball et un type s'amène derrière moi en voiture et je suis jeté dans le coffre de la voiture et il fait sombre et la voiture démarre dans la nuit et on ne me retrouvera plus jamais.
on ne me retrouvera plus jamais. Cette terreur est plus forte que la peur de la mort. Tandis que l'enfant me parlait, je tentais d'imaginer le silence ouaté du coffre, l'obscurité, la vitesse, la route sinueuse. Je m'efforçais de me mettre à la place de l'enfant. Ma mémoire refusait de reconnaître que cet enfant, c'était moi. Pourtant, cet enfant, c'était moi. Je ne me souviens pas, jamais je ne me souviendrai, de mes cris et de mes hurlements la première fois que ma mère me fut enlevée. Ma mère était le seul être humain au monde, le seul. Tous les autres n'existaient que parce qu'elle leur en donnait la permission. Ce que renie la mémoire nous contrôle. Ce que l'on a oublié détermine qui l'on aime, qui l'on est impuissant à aimer. Ce que l'on a oublié détermine le choix de nos jeux, poker, billard ou échecs. Ce qui est oublié est la clé de nos crises de colère ou de notre maîtrise de soi. L'oublié est le serpent du jardin de nos rêves. Ce dont on ne se souvient pas est aussi la clé de notre comportement aux toilettes ou entre les draps. Seul ce que nous avons oublié contient l'espoir, les dangers, les pièges et l'inexorabilité de l'amour. Et seul l'amour peut nous aider à reconnaître ce dont nous ne nous souvenons pas. La mémoire fait irruption sur la scène de la vie, pour de vrai, au moment où la vie finit, apparaissant enfin comme une sorte de guide vers une condition d'existence qui la dépasse et qui dépasse l'imagination. Quel rapport avec les enfants disparus et assassinés d'Atlanta ? Ceci. Personne ne souhaite être plongé tête la première dans le torrent de ce que sa mémoire refuse de reconnaître. Et les meurtres d'Atlanta en Géorgie nous y plongent, comme ils nous rappellent que nous sommes tous ici-bas des candidats au massacre des innocents. Ils nous rappellent que tous les survivants, qu'ils le reconnaissent ou non, doivent porter le poids de la culpabilité de celui qui a survécu. Quant à moi, ils me rappellent que j'ai été un enfant noir dans un pays blanc. Voilà le début, c'est la petite introduction que James Baldwin a écrite à Meurtre à Atlanta, un texte publié en 1985 sous un titre américain qui me paraît beaucoup plus intéressant et plus proche de l'esprit de James Baldwin, The Evidence of Things Not Seen. Meurtre à Atlanta est donc une réflexion qu'a menée James Baldwin à l'invitation qui lui a été faite lorsqu'il était en France de se plonger sur la série de meurtres qui ont été commis entre 1979 et 1980. 81 dans la capitale de la Géorgie, des meurtres commis sur plus d'une vingtaine d'enfants, d'adolescents et d'adultes noirs. Alors, non pas qu'il n'y ait pas régulièrement des assassinats et des meurtres, bien au contraire, James Baldwin en est parfaitement conscient et il sait que la population noire en est plus régulièrement victime que tous les autres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette série d'événements, d'incidents, de meurtres qui ont été commis, ont été artificiellement reliés les uns aux autres par une accusation qui a décidé de faire porter la responsabilité de ces meurtres sur un homme qui a été considéré comme le coupable, Wayne Williams, qui a eu un procès pour deux d'entre eux portant sur les deux seuls adultes, mais à qui on a fait porter de manière assez surprenante, inquiétante et étrange d'un point de vue purement démocratique et judiciaire, à qui on a fait porter la responsabilité de l'ensemble des autres crimes qui, eux, ont été perpétrés contre des adolescents, généralement autour d'une dizaine d'années. Le travail de James Baldwin, il est très intéressant parce qu'il est à la fois une observation clinique de la ville d'Atlanta elle-même, de l'intrication inquiétante et intéressante à observer des pouvoirs à la fois noirs et blancs qui s'y exercent, puisque la ville à l'époque était dirigée par un maire noir, mais que James Baldwin s'interroge bien évidemment sur ce que j'ai dit expliquer tout à l'heure, la subtilité qu'il y a entre la couleur de peau d'un côté et le pouvoir de l'autre, le pouvoir pouvant avoir une couleur qui n'est pas nécessairement celle de notre peau. Et puis il y a aussi évidemment toute une réflexion autour du comité qui s'est créé autour de cette disparition, un comité créé par des mères de victimes qui ont décidé de se rassembler pour obtenir réparation et surtout s'étonner que les meurtres d'enfants qui ont été perpétrés dans ces années 79-81 n'aient pas provoqué plus de chocs émotionnels que cela aurait été le cas si ça avait été des blancs, bien évidemment, qui avaient été tués. Et donc James Baldwin suit ces femmes, rencontre des gens, des hommes politiques, des policiers, des responsables de la ville pour enquêter, observer, réfléchir et encore une fois prolonger ce sillon qu'il trace depuis déjà un bon moment dans ses écrits sur la réflexion raciale, la question raciale aux États-Unis, et il l'entremêle évidemment à son propre parcours d'enfant qui a vécu évidemment à Harlem face au racisme, qui a aussi fait des voyages dans le sud pour confronter sa vision de la question raciale, je l'ai dit, différente entre la version nord et la version sud du pays, et qui en même temps se sent intimement porté par son statut d'écrivain pour rendre compte de ce qui se passe dans cette société qui obstinément refuse d'observer véritablement ses rouages intérieurs, la manière dont elle fonctionne et la cruauté qui l'a fait dévorer ses propres enfants. C'est un texte qui est véritablement fascinant et passionnant de James Baldwin et qui dépasse de très loin ce que le titre Meurtre à Atlanta pourrait nous laisser penser d'une œuvre qui ne serait que une sorte de recherche policière. Ça va bien au-delà, évidemment, puisque sous la plume de James Baldwin, c'est tout le fonctionnement du monde occidental qui est aussi mis en accusation et à qui on demande de se retourner sur lui-même pour s'interroger sur les symptômes et les conséquences de cette colonisation et de cet esclavagisme qu'il a porté à bout de bras depuis des millénaires. James Baldwin, Meurtre à Atlanta, est donc un texte traduit de l'anglais américain par James Bryant. Il est revu par Florence Noblet et paraît donc aux éditions de Poche, Le Livre de Poche, après une publication originale en 1985, c'était aux éditions Stock. L'émission s'achève et je reviens sur les titres antérieurs. Du même auteur, James Baldwin, j'ai donc présenté « Personne ne sait mon nom », un recueil d'essais et de réflexions disponible désormais en folio, collection folio des éditions Gallimard, dans une traduction de l'anglais américain de Jean Autré. Juste avant, de Michalis Makropoulos, j'ai présenté L'Arbre de Judas. C'est une traduction du grec de Clara Nizzoli pour les éditions Agulo dans leur collection Cours. Et j'avais ouvert avec le passionnant Près du mur nord de Petra Klabuchova, un texte traduit du tchèque par Barbara Faure, ceci pour les éditions Agulo dans leur collection Noir. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur notre site internet palut.fr et vous pouvez y écouter les archives sonores de l'émission. Je vous laisse quant à moi en compagnie des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Juste après moi, Écho de Madagascar présenté par Drouot. À la semaine prochaine, au revoir.
Plus, il est...